Je vous invite à ouvrir la parole dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Un verset qui nous parle de ce que nous étions et de ce que nous sommes maintenant. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Il est dit « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. » Nous étions ténèbres, nous dit la parole, maintenant nous sommes lumière. Et quand on réfléchit à ce que ça signifie, on se rend compte que c'est une grâce. Rien que ce verset pourrait nous conduire à prendre un temps de louange maintenant, à dire « Seigneur, merci » parce que c'est vrai, on était dans le royaume des ténèbres. Maintenant, tu nous as fait grâce, tu nous as offert le privilège de marcher dans la lumière. C'est super. Mais ce qui a marqué aussi, quand on lit tellement vite, c'est qu'il y a une grâce d'être dans la lumière, mais il y a aussi un devoir, il y a quelque chose qu'on doit faire. Nous devons marcher dans la lumière, nous devons nous comporter comme des enfants de lumière, nous devons porter le fruit de la lumière. On va lire un autre passage dans Marc, chapitre 4 et le verset 21, qui est toujours dans ce sens. Ce soir, je voudrais insister vraiment sur ce côté-là, de porter le fruit de la lumière, porter ce fruit-là. Et c'est la parole de Dieu qui nous donne tous ces conseils. Là, en particulier, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples et qui fait tous ces enseignements. Marc 4, verset 21, il leur dit encore « Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit ? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier ? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Amen. » D'autres versets nous disent, qu'on connaît bien sur le sermon sur la montagne, « Notre lumière doit luire devant les hommes. » Et ce que nous faisons, toutes les façons que nous avons de réagir, toutes les paroles qui peuvent sortir de notre bouche, sont là pour montrer quel fruit se dégage de notre vie. Et je pensais à cette petite histoire que j'ai lue. C'était un petit garçon qui venait des États-Unis, qui était parti en vacances pendant l'été avec ses parents en Europe. Et ce qu'ils ont fait pendant cette visite en Europe, ils ont visité en particulier les cathédrales. Parce qu'aux États-Unis, ils n'en ont pas autant qu'ici, les cathédrales qui datent de plusieurs siècles en arrière. Et donc, les parents l'ont amené, ce petit garçon, et il était émerveillé quand il rentrait dans ces endroits, qu'il voyait la hauteur des bâtiments. Vous avez déjà vu des cathédrales, combien le plafond est haut. Il y a toutes sortes de décorations qui sont là. Et ce garçon, il était scotché, surtout devant les vitraux qui étaient là. Et les représentations qu'il y avait, il était émerveillé par ça. Quand il est rentré chez lui à l'église, donc après les vacances, et que le moniteur lui a dit « Alors, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ce que tu as visité ?» Il a dit « C'était merveilleux, ces grandes cathédrales. Ce qui était merveilleux, c'était les vitraux qui représentaient les saints, comme ça. » Et le moniteur, il voulait donc embrayer un peu sur ce qu'il disait. Il a dit « C'est quoi pour toi, les saints ?» Et il a donné cette description « Un saint, c'est une personne à travers qui la lumière brille. » Combien ? C'est une bonne description de ce qu'on doit être chacun d'entre nous. On comprend bien que les saints, ce n'est pas ceux qui sont morts. Pas seulement ceux qui sont morts en Christ, mais c'est surtout nous qui voulons nous appliquer à marcher dans la sainteté. Et voilà notre devoir, c'est que la lumière puisse briller, la lumière de Jésus-Christ puisse briller en nous. Et il y a tellement de choses qui pourraient faire obstacle à cette lumière. Vous vous rendez compte, quand vous prenez par exemple une lampe de voiture, là, un phare de voiture, vous savez, à force de rouler, il y a des moustiques ou il y a des bestioles qui s'écrasent dessus. Mais imaginez un instant qu'on ne lave jamais sa voiture et qu'on laisse les moustiques s'accumuler. Est-ce qu'un moustique, c'est grand ? Ça fait quelle dimension ? Bon, pas grand-chose. Mais si on met toute une vie de moustiques, toute une vie de voiture qui a roulé et qui s'est pris des moustiques, à un moment donné, la lumière peut être empêchée de passer. Comprenez, il ne suffit pas de grandes choses pour que la lumière de Christ ne passe plus. Et avant de pouvoir parler de ce fruit de lumière, je voudrais vous parler du fruit. Vous savez que la Bible parle beaucoup du fruit. Le fruit, c'est toutes les actions, tout le travail qui résulte de quelque chose. Par exemple, il est question du fruit de la repentance. Vous avez vu que Jean-Baptiste, quand il prêchait, il disait « Mais produisez du fruit digne de la repentance ». Il disait ça en particulier aux pharisiens qui étaient les spécialistes pour pas se repentir. Quand on voit comment ça marche la repentance, on se rend compte de ce processus. D'abord, on reconnaît notre péché, on reconnaît qu'on est pécheur devant Dieu. Ensuite, parce qu'on reconnaît qu'on est pécheur, on demande pardon au Seigneur. Et un des premiers fruits, c'est qu'il y a la paix de Dieu qui nous envahit. Le fruit de la repentance, c'est ça, mais ce n'est pas que ça. Parce que quand on se réalise qu'on a fait la paix avec Dieu, Dieu nous montre qu'il faut faire la paix peut-être avec des personnes. Si on a fait du mal à quelqu'un par la bouche, on va demander pardon à la personne. Mais pas que. Ça peut être beaucoup de choses. Je demande pardon aux gens, je rends ce que j'ai volé, je répare ce que j'ai cassé, je respecte les promesses que j'ai faites. Et il y a toutes sortes de comportements extérieurs qui deviennent le fruit de la repentance. Vous comprenez ? C'est toutes ces choses qui sont produites par l'action de la repentance. La repentance, c'est quelque chose qui est plutôt intérieur d'abord. Mais ça doit s'exprimer à un moment donné. Et le fruit de la lumière, c'est la même chose. Et avant de voir ce qu'est le fruit de la lumière exactement, nous allons voir ce qu'il n'est pas. Et cela, on le trouve dans Romains chapitre 6. Ce que n'est pas le fruit de la lumière. Romains 6, verset 20, il est dit ceci. « Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors ? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. » Regardez un peu plus loin au chapitre 7 et le verset 5. C'est la même pensée qui est là. « Lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits. » Comment ils étaient ces fruits ? Pour la mort. Voilà les fruits. Ce que n'est pas le fruit de la lumière, c'est déjà tous ces fruits-là qui apportent la mort, qui ont comme conséquence la mort, la séparation d'avec Dieu, la désapprobation de Dieu. C'est ces fruits qui amènent la mort. Alors, on peut se faire avoir parce que certaines fois, il y a des fruits qui semblent bons en apparence, et qui ne sont pas bons. Je ne sais pas si vous en connaissez, mais il y a des fois des fruits qui, à l'œil nu, semblent tellement merveilleux, et puis quand on y a goûté, on se rend compte que c'est quelque chose de pas bon du tout. Mais d'abord, avant de parler de ces fruits-là, il y a les fruits qui paraissent mauvais, qui paraissent pas bons, et qu'on n'a pas forcément envie de manger. Quand la Bible nous parle des fruits qui amènent à la mort, qui conduisent à la mort, on pense à toutes les œuvres mauvaises que quelqu'un peut faire, même qui est au Seigneur, mais qui peut retourner dans ces choses-là. Vous connaissez les passages dans Galates chapitre 5, les œuvres de la chair, ce qu'elles sont. Et il y a toute une liste qui est donnée. Et ce qui est important de réaliser, c'est ce verset. Comment il commence ? Les œuvres de la chair sont évidentes. Mais dans les temps dans lesquels on est, je trouve que ce n'est pas si évident que ça. Les œuvres de la chair sont évidentes pour ceux qui ont la lumière de Christ qui brille. Mais dans le monde qui maintenant est de plus en plus plongé dans les ténèbres, les œuvres de la chair, elles ne sont pas évidentes. Regardez avec moi, on y va dans Galates chapitre 5. Les œuvres de la chair sont évidentes ou sont manifestes. Et au verset 19, hein, c'est ça qu'il est dit. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table. Et les choses semblables, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et pour nous qui connaissons la parole, les choses qui viennent de la chair, les œuvres de la chair sont évidemment mauvaises. Mais pour ceux qui sont dans les ténèbres, puisqu'ils sont dans cet aveuglement-là, et ils ne réalisent pas que c'est des choses mauvaises. Je pensais par exemple à un homme que je connaissais qui avait tout un processus pour tromper son assurance. Je ne sais pas si vous en avez connu des personnes qui font ça. Ils profitaient du moment, on était dans les Landes, il y avait beaucoup d'orages. À certains moments de l'année, il y a beaucoup d'orages. Et la terre, elle a cette particularité d'attirer la foudre. Et ce gars, il attendait que la foudre, elle tombe quelque part, mais pas trop loin de là où il habite, pour déclarer à son assurance que sa télé, elle avait grillé, puis l'aller voir son réparateur de télé, qui était un de ses amis, qui lui faisait une facture, un devis énorme, comme quoi la télé était totalement cramée, et en même temps, il lui faisait une nouvelle facture pour lui avoir une autre télé. Et lui, il envoyait tout ça sans assurance. L'assurance lui remboursait intégralement la télé perdue. Et lui, en plus, comme son ancienne télé, elle marchait, hein, elle n'avait rien eu. C'était du mensonge. Mais comme elle marchait encore, il la revendait sur le bon coin. Le résultat, c'est qu'il se retrouve avec une télé neuve, avec qu'il avait acheté avec les sous de l'assurance, et puis il se retrouvait avec les sous de son ancienne télé. Et on peut se dire, mais c'est merveilleux le mensonge, ça apporte plein de bonnes choses bénéfiques. C'est merveilleux un fruit, quand on n'a pas la lumière et qu'on mange un fruit, même s'il a l'air mauvais, on s'en fiche, puisque c'est le goût qui compte. Vous comprenez? Et notre monde se trouve dans cette réalité que c'est le plaisir immédiat qui compte, c'est le goût que le fruit a qui compte. Mais on ne regarde pas à la conséquence. On ne regarde ni à l'apparence, ni à la conséquence que ça amène la mort. La Bible nous dit que quand on est un menteur, notre part est dans l'étang de feu ardent. Notre part est en enfer. Le mensonge, c'est un fruit pour la mort. Et même si à un certain moment du temps, on a l'impression que ça nous apporte quelque chose, en tout cas, devant Dieu, ça nous apporte une désapprobation. Souvent, on entend les gens qui disent « Oui, mais tout le monde le fait. Alors, quoi de mal ?» Est-ce que c'est un argument qui vous correspond, ça, ou que vous trouvez solide ?« Tout le monde le fait. » Parce qu'on a vite fait de régler la question. Hein. « Tout le monde s'empoisonne, alors il faut que je m'empoisonne. » Vous comprenez que ça ne tient pas la route, des arguments comme ça. Par contre, nous devons connaître la parole. Là, j'ai cité le mensonge, et vous allez me dire « Mais il ne fait pas partie de la liste. » Oui, mais quand on lit la parole, on se rend compte que le mensonge est totalement désapprouvé. J'ai pris un exemple au passage. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. On comprend que le mensonge, c'est les œuvres de la chair auxquelles on doit renoncer, qu'on ne doit pas laisser perdurer en nous, sinon ça va produire la mort, ça va produire l'effet de ce mauvais fruit, le fruit qui amène à la mort. Mais il n'y a pas que les œuvres qui paraissent mauvaises en soi, les fruits qui paraissent mauvais en soi, qui apportent la mort. Il y a aussi certains fruits qui ont l'apparence des fruits de la lumière, certains fruits qui ressemblent au bon service que Dieu attend de nous. Par exemple, le fait d'avoir des bonnes œuvres, c'est quelque chose qui est bien en soi. Mais la façon dont on s'y prend pour faire ces bonnes œuvres, ça peut déterminer si c'est dans la volonté de Dieu ou pas. Par exemple, est-ce qu'on pense que le fruit de la lumière, ça serait compter le nombre d'activités dans lesquelles je suis dans l'Église? Ah, moi j'ai 4 services. Ah, moi devant Dieu, c'est super. Ah, il y a des pasteurs, je suis peiné quand j'entends des pasteurs qui disent qu'ils baptisent des personnes parce que des personnes qui ne sont pas converties, parce que ça leur permet d'avoir un pied dans l'Église. Et du coup, ils ont pas mal de personnes à baptiser. Hein. Les services de baptême, il y a de nombreuses personnes, mais ils ne sont pas convertis. Est-ce que c'est ça le fruit de la lumière? Est-ce que c'est compter le nombre de personnes à qui on a témoigné dans la semaine? Est-ce que c'est compter le nombre de Bibles qu'on a distribuées? Il y a des personnes, je connais, qui prennent des prospectus et qui distribuent continuellement, mais leur vie ne correspond pas. Est-ce que c'est ça le fruit de la lumière? Le nombre de visites par semaine ou le nombre de coups de téléphone ou tout ce qu'on pourrait multiplier, est-ce que ce sont des choses qui sont bien? On est d'accord que oui. Mais ce n'est pas parce qu'on les fait que c'est forcément ce que Dieu attend de nous. Et ce n'est pas parce qu'on en fait en quantité que ça nous dispense de mettre nos vies à la lumière de Christ. Il y a des personnes dans le monde qui donnent des fortunes pour nourrir des personnes qui meurent de faim. Est-ce que c'est bien? C'est super. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui le font pour ne pas être remis leur conscience devant Dieu, pour ne pas se remettre en question, pour ne pas réfléchir à ce qui est mal dans leur vie. Il y a des personnes qui font toutes sortes de choses, toutes sortes d'œuvres caritatives pour éviter de penser à Dieu et à leur âme. Et ça, ce n'est pas le fruit de la lumière. Mais par contre, la paresse, ce n'est pas le fruit de la lumière non plus. Parce que vous allez me dire, ah, il ne faut surtout pas multiplier les services dans lesquels on s'investit. Oui, oui, mais si on ne fait rien pour le Seigneur, est-ce que c'est un bon fruit? Si on a du temps disponible, on a peut-être de l'argent disponible, on a des capacités, des talents que le Seigneur nous a donnés, et on ne fait rien du tout, est-ce que c'est un bon fruit qui va transparaître de notre vie? Est-ce qu'on a l'impression que là, la lumière de Christ est en train de passer au travers de nous? Je ne crois pas. Et le danger, ça serait de tomber dans ce piège. Le fruit de la lumière, ce n'est pas toutes ces choses qui produisent la mort. La Bible appelle toutes ces choses qui sont bonnes, mais qui, qui, qui n'amène à rien en soi, ce sont les œuvres mortes. Les pharisiens étaient des spécialistes pour respecter la loi, mais tout ce qu'ils faisaient, c'était mort. Ça amenait la mort. Jésus leur a dit quelque chose, il leur a dit, vous auriez dû garder tout ce que vous faites, mais en plus, ne pas négliger ce qui est le plus important, la justice, la fidélité, etc. Toutes ces choses qui sont bonnes dans la loi, c'est ça qu'il fallait tenir bon. C'est ça le bon fruit que Dieu attend de nous. Justement, le fruit de la lumière, qu'est-ce que c'est? Ce qui fait la qualité du fruit, c'est dans quel esprit nous faisons le service. C'est justement cette lumière qui rejaillit de nos vies quand nous servons le Seigneur. J'avais vraiment sur le cœur de cette pensée de vous encourager à servir le Seigneur, mais le servir dans le bon état d'esprit. Et ce verset auquel je pensais, c'était justement le suivant, dans Galates chapitre 5, au verset 22, « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » Voilà ce que le Seigneur nous appelle à vivre, à le servir, mais avec ce fruit-là qui se dégage de chacune de nos vies. L'important, c'est de savoir pour quel motif on fait les choses. Dans les choses qu'on fait pour le Seigneur, l'important, c'est de savoir le motif final. Et je prends l'exemple de deux jeunes hommes. Il y en a un qui travaille pour se payer des livres, pour se former, pour prêcher l'Évangile, pour sauver des âmes, pour plaire à Dieu. Et puis, il y a un deuxième jeune homme qui arrive, et lui, il travaille pour se payer des livres, pour se former, pour prêcher l'Évangile, pour avoir une situation bien confortable et pour avoir la renommée. Les deux jeunes, ils font exactement la même chose. Au point de vue d'apparence, c'est exactement la même chose. Et pourtant, il y en a un qui sert le Seigneur et il y en a un qui produit la mort, qui fait des choses par orgueil. Est-ce que vous croyez que Dieu va bénir quelqu'un qui prêche l'Évangile pour avoir une renommée? Est-ce que vous croyez que c'est ça que Dieu, le Seigneur, il attend de quelqu'un? L'autre qui veut plaire au Seigneur et parce qu'il plaît au Seigneur, il veut aussi que des âmes soient sauvées et c'est pour ça qu'il plaît l'Évangile. Mais quand on les regarde, en apparence, ils font la même chose. Sauf qu'il y en a un qui aura l'approbation de Dieu. Et il y en a un qui aura la désapprobation. Je ne sais pas ce que vous attendez, je sais ce que vous attendez en fait. Je sais que vous voulez l'approbation de Dieu. Mais l'important, c'est le motif final. Pourquoi je fais telle ou telle chose? Est-ce que c'est pour me faire voir? Est-ce que c'est pour que j'aie une certaine renommée comme ce jeune homme? Ou est-ce que c'est vraiment parce que le Seigneur me l'a montré, que je veux lui plaire? Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bontés, on a lu. Il consiste en toutes sortes de justice, même cette justice qui fait que on va faire des choses qui ne sont pas intéressantes, qui ne sont pas attirantes. Je pensais à cet exemple aussi que j'avais entendu, un pasteur qui racontait, il faisait l'éloge d'un chrétien dans son église. Il était content d'avoir ce chrétien-là, mais au début il se posait des questions parce que c'était un homme qui n'avait pas beaucoup de qualités et il avait décidé finalement de faire le ménage dans l'église. Et puis le pasteur s'est aperçu que quand il faisait le ménage, il était super lent. Il était lent. Il s'est demandé, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il met tant et tant de temps? Et en fait, il a regardé ce qu'il faisait quand il faisait le ménage. Il passait le balai et puis il s'arrêtait à chaque chaise. Il s'arrêtait donc à la première chaise, il passe le balai, il s'arrête un petit peu et il passe à la deuxième chaise, il passe le balai, il s'arrête. Et etc., etc. Et je ne sais pas combien de chaises il y avait, mais le pasteur, il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Et puis, il est allé le voir, il lui a dit, bon, merci de ton implication, etc. Mais pourquoi tu fais ça devant les chaises? Et en fait, cet homme lui expliquait que à chaque fois qu'il passait le balai, il était en train de prier pour la personne qui allait s'asseoir à la réunion suivante pour qu'elle puisse être touchée par le Seigneur, fortifiée, bénie. Et comme vous savez, des fois, il y a des personnes qui s'assoient toujours au même endroit. Ils savaient des fois pour qui ils priaient. Et c'est pour ça que le pasteur, finalement, il faisait l'éloge de cet homme. Parce qu'il avait transformé son petit service que personne ne voyait en une réunion de prière. Et est-ce que nous avons cet état d'esprit? Ce fruit-là, que personne ne voit, là, le pasteur a pu le voir. Mais c'est justement ce que le Seigneur il a fait. Est-ce que la croix, là où Jésus est mort, c'était quelque chose d'attirant? Qu'il y avait du monde qui se bousculait Il y avait une file d'attente pour faire ça. Non, il n'y avait qu'un seul homme. Même s'il y avait eu une file d'attente, il n'y avait qu'un seul homme qui était digne de le faire, c'était le Seigneur Jésus. Et il l'a fait. Et le fruit que ça a donné, vous êtes d'accord pour dire qu'il n'y a rien qui peut le surpasser. Que nous avons aujourd'hui la vie éternelle, le pardon de nos péchés. Nous pouvons goûter à cette vie de qualité supérieure ici-bas et cette gloire éternelle dans le ciel. Quelque chose de merveilleux, mais parce que Jésus a accepté de faire quelque chose qui n'était pas attirant. Le fruit, la lumière, consiste en toutes sortes de vérités. Je le disais, mais je le répète, être vrai, même si personne d'autre ne nous voit que Dieu. Est-ce que nous sommes vrais quand nous sommes dans le secret? Vous vous souvenez ce qu'on a lu au début? Il n'y a rien de secret qui ne doive être mis à jour. Et on peut le comprendre de la bonne façon. C'est-à-dire que pour que la lumière transparaisse de nos actes, pour que la vie de Dieu se manifeste en nous, il faut que d'abord on se soit nous-mêmes exposés dans le secret. Et ce qui a été fait dans le secret va se dévoiler devant les autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, Jésus nous parle de la prière. Comment il voit la prière, comment il va bénir la personne qui prie, de quelle manière il va la bénir. Il parle dans Matthieu 6:6, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Vous comprenez que la personne qui va prier et qui va venir dans la présence de Dieu, dans la solitude de sa chambre fermée, et qui va passer un moment de bénédiction, elle va être elle-même bénie quand elle sera avec des personnes qui vont l'entourer, avec des discussions, avec quelqu'un qui lui pose une question sur Dieu. Quand elle sera face à une difficulté, elle aura déjà ce réservoir plein de la grâce de Dieu parce qu'elle aura pris ce temps devant la présence de Dieu. Elle aura exposé sa vie à la lumière de Christ et elle pourra ainsi manifester la vie de Christ. Jésus parle de la même chose, de la même façon pour le jeûne, pour l'offrande. Comment est-ce que je jeûne? Comment est-ce que je donne mon offrande? Est-ce que je le fais avec ce désir secret dans mon cœur d'être en bénédiction pour le Seigneur? Ou est-ce que je le fais pour que les hommes m'applaudissent? Je pense à l'exemple de David. David, avant d'affronter le géant Goliath, nous on connaît tous l'histoire du géant Goliath, mais avant d'affronter le géant Goliath, il était souvent tout seul. Il était méprisé de sa famille, il était méprisé de tout le monde même, mais il était fidèle, et il était vrai, et il était intègre devant Dieu. Et lui, on lui avait donné une mission, et ce n'était pas grand-chose, il était le berger, et il devait s'occuper des brebis. Et David, quand il a vu arriver un lion ou il a vu arriver un ours, il n'a pas dit oh, « après tout, personne ne me voit, c'est pas trop grave, s'il en manque une de perdue, 10 de retrouvée ». Voilà, les brebis, bon, on se débrouillera autrement. Non, non, on lui avait donné une mission, tu es un berger. Lui, il avait pris ça à cœur. Je suis un berger, s'il y a un lion ou un ours, c'est pas rien un lion ou un ours. S'il y a un lion ou un ours, j'aimerais bien en faire venir pour que vous soyez vraiment convaincus. Un lion ou un ours. Et ce qui est incroyable, c'est que même quand il avait attrapé dans la gueule la brebis, David, il le poursuivait, il arrachait la brebis de la gueule et il terrassait le lion ou il terrassait l'ours. Parce qu'il avait ce cœur de plaire au Seigneur, que même si personne ne le voyait, même si les seules personnes qui l'applaudissaient, c'était les brebis, il était là, il était fidèle, il tenait bon, parce qu'il savait que quand on était vrai devant Dieu, le Seigneur allait le bénir. Voilà pourquoi quand il se retrouvait devant Goliath, il n'a pas été surpris, il n'a pas été apeuré, il n'a rien eu de tout cela. Il avait l'habitude de ces situations. Sauf que là, la différence, c'est qu'il y avait tout le peuple d'Israël qui l'a vu faire. Et vous comprenez que ce qu'on fait plutôt dans le secret, a un impact dans ce qu'on fait après. Et si on veut avoir l'onction de Dieu quand on est devant les autres, il faut que d'abord on ait l'onction de Dieu, qu'on la reçoive dans le lieu secret. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de secret qui ne doive être mis à jour. Si dans le secret, je me remplis de mauvaises choses, ce qui va être mis à jour, ça sera des mauvaises choses, que je le veuille ou non. Si c'est des bonnes choses, ce qui va ressortir, c'est des bonnes choses. Est-ce qu'il y a du fruit de la lumière dans ce que je fais? Qu'est-ce qui transparaît dans mon service? On a lu ce passage et moi j'aime bien prendre les versets de la Bible et me poser des questions. Quand je lis le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, etc. Est-ce que je sers Dieu par amour? Est-ce que je sers Dieu avec ce désir de lui plaire, de ce désir d'être utile à mes frères, à mes sœurs? Ou est-ce que je le fais pour une autre raison quelconque? Est-ce que je sers Dieu avec joie? Ou est-ce que je le fais parce qu'il faut servir? Comme le fils aîné dans la parabole du fils prodigue qui servait son père, mais il faisait contraint, forcé. Il faisait en râlant, il faisait avec l'amertume. Est-ce que c'est ça que le Seigneur demande? Est-ce que je sers Dieu avec de la paix? Ou est-ce que je suis continuellement en train de stresser, continuellement en train de m'inquiéter? Est-ce que je sers Dieu avec de la patience? Je suis patient ou alors, dès qu'il y a une situation qui ne va pas, je commence à m'énerver contre l'un, contre l'autre, parce que c'est en train de m'échapper. Est-ce que je suis plein de bonté ou est-ce que je suis indifférent? Est-ce que je suis fidèle? Ou est-ce que je commence bien, je suis plein de zèle quand je commence mon service, et puis au bout de quelques mois, j'en ai marre, je passe à autre chose. Je m'arrête quand vient la tribulation. Et on pourrait continuer toutes les questions. Mais la vraie question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont des obstacles à cette lumière? Vous avez vu, Jésus parle de ce boisseau. Le boisseau représente le travail. Et il parle du lit, le lit parle de la paresse. Et je me souviens quand j'étais étudiant, moi j'étais en classe préparatoire, on était 45 dans la classe, tous les samedis on avait un devoir surveillé de 4 ou 5 heures le samedi matin. Les notes, alors qu'on avait des bonnes notes avant, ça dépassait jamais 8. J'ai eu mes premières fois où j'ai eu 2 ou j'ai eu 3 sur 20, c'était en classe prépa. Et il fallait justifier toutes les absences, si tu n'étais pas là, il fallait trouver un mot, quelque chose. Et puis j'avais un ami en même temps, lui il était à la fac de droit je crois, mais lui il avait la vie cool. Et personne ne contrôlait s'il était présent ou pas, les cours il n'avait que 20 heures par semaine. Et des fois on se comparait les plannings, c'était drôle. Mais à un moment donné on s'est aperçu en lisant ce passage qu'il y en a un qui était sous le boisseau et l'autre il était sous le lit. La lampe, elle était sous le boisseau. J'avais tellement de travail, tellement de choses, tellement de devoirs que le Seigneur c'était bien, mais je m'occupais d'abord de ces choses-là. Et si j'avais quelques minutes à un moment donné, je l'accordais au Seigneur. Et puis lui, il était tellement bien, tellement dans ce rythme cool, tranquille, zen, qu'il faisait des grasses maths, d'accord, mais il oubliait aussi que le Seigneur était là. Sous quoi est-ce que nous avons mis nos lampes? Il peut y avoir donc le travail, la paresse, il peut y avoir tellement de choses, la famille, la religiosité même. Toutes ces choses, ce sont des obstacles à ce que la lumière puisse jaillir de nos vies. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. On peut aussi le comprendre de la mauvaise manière, c'est-à-dire que si ici-bas, il y a certaines choses qu'on aura réussi à cacher, il y a un jour par contre, où devant Dieu, nous ne pourrons rien lui cacher. Il y a un verset qui dit « Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes ». Voilà pourquoi il vaut mieux aujourd'hui mettre notre cœur à la disposition du Seigneur pour qu'il nous éclaire, parce qu'à ce moment-là, on peut demander pardon, et on peut avancer, et on peut corriger, et on peut nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé, etc. Mais quand on sera à la lumière du jugement, il n'y aura plus moyen de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de laisser la lumière de Christ briller en nous. Alors, frères et sœurs, mais dans ces instants, laissons le Saint-Esprit faire son œuvre. On va se recueillir quelques instants. Je vous ai apporté la parole, je vous ai lu les versets de la Bible. Maintenant, c'est à chacun de nous de répondre. De répondre à cet appel que le Seigneur nous lance. Déjà, posons-nous cette question, quel fruit transparaît de ma vie? Est-ce que c'est un fruit de lumière? Ou est-ce que c'est un fruit de ténèbres? Il y a les œuvres de la chair qui sont là. Alors que nous nous recueillons, je crois que le Saint-Esprit parle à nos cœurs et nous montre quelque chose. C'est vrai que nous étions ténèbres et le Seigneur a permis par sa grâce que nous devenions lumière. Mais parce que nous sommes des enfants de lumière, nous devons marcher en tant que tels. Nous devons avoir ce comportement qui honore le Seigneur. Et il ne s'agit pas seulement de faire des bonnes œuvres comme on l'a partagé, mais d'avoir tout ce cœur, cet état d'esprit, cette vérité. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Cette justice de faire les choses sérieusement, même quand ce n'est pas attirant. Cette bonté d'avoir des bons motifs, de faire les choses pour des bonnes raisons, parce qu'on veut plaire au Seigneur. Cette vérité d'être vrai autant dans le lieu secret que devant les hommes. Ne pas avoir une double face, pas être comme les hypocrites. Le Seigneur nous appelle à avoir ce fruit de la lumière. Parce qu'il veut se servir de nous, son désir. C'est que comme nous sommes ses enfants, il veut que nous puissions être utiles. Nous avons prié tout à l'heure pour nos familles, pour les personnes qui nous environnent dans notre vie de tous les jours. Le seul moyen pour que nous puissions être vraiment utiles à ces personnes, c'est que nous soyons pleins du fruit de lumière et qu'il n'y ait plus d'obstacles dans nos vies. Si ce soir il y avait un obstacle, abandonnez-le, confessez-le, demandez pardon au Seigneur, repentez-vous et pratiquez les œuvres que le Seigneur vous demande de pratiquer. Faites ce que le Seigneur vous demande de faire et vous verrez qu'il étendra sa bénédiction sur vous parce qu'il a promis. Il a promis à tous ceux qui marcheraient dans la lumière qu'ils iraient jusque dans la vie éternelle. Je vais prier le Seigneur. Éternel, je te bénis. Parce que tu es celui, oui, qui nous a promis de nous donner la vie avec abondance. Seigneur, ces paroles, elles ne sont pas vaines. Elles ne sont pas là pour nous faire miroiter quelque chose que tu ne veux pas nous donner. Mais tu nous dis, Seigneur, que tu ne donneras la vie éternelle qu'à ceux qui marchent dans la lumière. Seigneur, nous voulons être ces enfants de lumière. Nous voulons être de ceux qui portent le fruit de la lumière, de ceux qui ont ce bon fruit qui te plaît, qui te fait honneur, Seigneur, qui te permet d'être glorifié aux yeux des hommes, Seigneur. Merci parce que dans ce monde de ténèbres qui va de pire en mal, Seigneur, nous croyons que tu peux te servir de nous pour faire de chacun des lumières, Seigneur, afin que nous puissions être ces bénédictions que des hommes et des femmes puissent se donner à toi au travers de nos comportements, de nos témoignages, de ce que nous pourrons faire pour toi. Seigneur, nous ne voulons pas faire les choses pour les faire seulement, mais nous voulons les faire pour te plaire. Nous voulons les faire pour que des âmes soient sauvées. Nous voulons, Seigneur, avoir cette ferveur dans notre cœur pour que des hommes et des femmes soient sauvés. Nous voulons être fervents dans la prière pour que des hommes et des femmes soient sauvés. Nous voulons, Seigneur, être fervents d'esprit pour que ton Église soit édifiée. Seigneur, nous voulons être pleins de lumière, pleins de ces choses que tu nous demande d'avoir dans nos cœurs, plein d'amour, plein de joie, plein de, Seigneur, de douceur. Et si, Seigneur, ce soir nous voyons que dans nos vies, il y a quelque chose qu'il manque, nous croyons que tu es capable, dans ces instants, de nous donner ce qu'il nous manque, Seigneur. Ô Éternel, merci pour ta grâce. Merci de visiter chacun de nos cœurs, que nous puissions repartir de ce lieu encouragés de toi, fortifiés par ton Saint-Esprit et par ta parole. Merci, Éternel. Amen.